Alors, je me présente, Lise Pelletier-Vaillancourt. Je suis de la région de Drummondville. Mon mari et moi, Alain, on a fait l'école maison pendant 13 ans. Et je suis à la retraite depuis 3 ans maintenant. Notre fille aînée, Anne, peut avoir 24 ans en juillet. Elle vient de terminer un DEC bac en soins infirmiers. Elle est bachelière de McGill depuis... La graduation était il y a 10 jours. Puis elle a commencé un travail à temps plein au Jewish Hospital de Montréal. Notre garçon, Louis, va avoir 22 ans en juillet. Il est marié depuis un an. Et puis, il fait sa troisième année de médecine à l'Université de Montréal, wow, sur le campus de Trois-Rivières. Puis, notre plus jeune, Marie-Claire, a 19 ans. Elle a fait un double DEC sciences de la nature au sujet de Drummondville, en même temps que sa musique au Conservatoire de Montréal en violon. Puis là, elle commence à temps plein au baccalauréat en violon en septembre. C'est-à-dire que le livre va être vide complètement à partir du mois de septembre. Donc, mais on est content, on est heureux de voir comment ils se sont dirigés. Puis, je partage ça pour vous encourager parce que des fois, on ne voit pas le bout du tunnel. On se demande, est-ce que je fais la bonne chose? Particulièrement quand ils sont rendus adolescents. Je me souviens d'une maman qui avait des enfants du même âge, adolescents, qui se demandait, est-ce que je suis en train de ruiner leur carrière? Bien, vous pouvez voir que non, ils peuvent très, très bien réussir une fois qu'ils intègrent le système public. Ma plus vieille, Anne, a fait l'école maison de troisième année à secondaire 3. Puis les deux plus jeunes ont fait l'école maison toute leur primaire jusqu'en secondaire 4. Ils ont intégré le système public seulement qu'en secondaire 5. Puis les deux m'ont dit, on est content d'avoir été voir ce que c'était à l'école publique, mais on est content de ne pas être allé avant. Alors, comme mon garçon qui est en médecine, je trouvais qu'à l'école, c'était beaucoup de répétitions, beaucoup de perte de temps. Puis, ma plus jeune, elle, c'est sûr qu'ils sont exposés à tout ce qui se passe dans les écoles, mais ce qui l'a plus influencé à l'école, c'était le manque de motivation des élèves. Ce qui la décourageait, c'est de voir le peu de curiosité. On y va par le bas, on veut en faire le moins possible. L'école, c'est plate. Alors, ce qu'on veut leur transmettre à la maison, une des raisons principales pourquoi on veut l'école maison, c'est que je voulais que ce soit intéressant à apprendre, qu'ils aiment apprendre, puis ils sont curieux. Je suis contente de me dire, mission accomplie, merci Seigneur. Je vois aujourd'hui un intérêt chez eux pour toutes sortes de choses. Ma fille aînée, la semaine dernière, à la Maison symphonique, c'était l'inauguration de l'orgue qu'ils ont fait construire spécialement. Il y avait une présentation. À 9h le matin, samedi, elle était là pour aller chercher des billets gratuits pour assister à cette présentation-là. Alors, je me dis, parce qu'elle est curieuse, elle a soif, elle veut en savoir plus. Alors, je me dis, mission accomplie. Alors, partage ça simplement pour vous encourager. Ça vaut la peine de continuer. Puis, à la fin de l'année, comme ça, vous êtes peut-être fatigué. Vous pensez à toutes les choses que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire cette année, que vous auriez aimé faire. Mais moi, je vous encourage à penser à tout ce que vous avez fait cette année. Puis si vous n'avez pas terminé, ben c'est pas grave, pour que vous preniez la même classe au mois de septembre. Alors c'est déjà arrivé, j'ai dit à mes enfants, ben on est rendu au mois de juin, on n'a pas fini, mais on va arrêter. Alors on a arrêté, puis on a simplement continué rendu au mois de septembre. Ça prend une pause, il faut prendre du recul, faites bien d'être ici ce matin. On vient se ressourcer, chercher des idées, partager entre maman, c'est vraiment important. Alors sur ça, je commence tout de suite avec l'atelier d'aujourd'hui, qui est sur comment intégrer à travers notre littérature des activités littéraires pour nos enfants, rendre le français intéressant. Je vais trouver mes notes à moi. Ça va être plus facile. Donc, vous avez sur vos feuilles, je m'excuse. Je vous ai donné vos feuilles à vous, mais je n'ai pas la mienne. Ah, OK, c'est ici. Désolée. OK, donc le premier, l'épouvantail. Moi, je suis... la dernière conférence que j'ai donnée à l'ACPEC, c'était il y a 4 ans. Et il y a 4 ans, on fonctionnait encore avec des acétates. Mais j'ai appris ce matin qu'il n'y avait plus d'acétates. Puis un tableau blanc comme ça, là, demandez-moi pas comment ça fonctionne. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer directement sur un tableau les exemples, je vais vous les expliquer. Il faudra quand même bien suivre. Donc, la première feuille que vous avez, c'est l'épouvantail. L'épouvantail, c'est pour des enfants là, qui commencent 5. Oui, c'est ça. Alors, 5, c'est 80 sous si vous avez la monnaie. Sinon, ben, on pourra s'en reparler à la fin, c'est pas urgent. Ça s'utilise bien pour des enfants en bas âge là, qui commencent à apprendre à lire et à écrire. Ou bien même s'ils ne savent pas lire, c'est un bon outil pour les aider à comprendre comment se structure un texte. Alors, je vous donne un exemple. Bon, le titre, ici, j'avais le livre « Un amour de tortue ». Fait qu'on remplit avec l'enfant, on lit le livre avec lui, Puis après ça, on remplit chacune des étapes que vous voyez sur l'épouvantail. Donc, l'auteur, c'était Roald Dahl, l'illustrateur, Quentin Blake. Le personnage principal, c'est Monsieur Hoppy. Donc, on l'écrit dans, au niveau de la tête. Ensuite, quand, sur, vous voyez ça du côté de la main gauche, bien, c'est lorsque Monsieur Hoppy est à la retraite, ou ça se passe sur son balcon, sur son, puis dans le salon d'un immeuble de béton. La suite des événements, mais là, on détaille avec les enfants. On pose des questions. C'est avec lui qu'on remplit ça. Alors, il faut qu'il cherche, il faut qu'il essaie de se rappeler les événements importants. Donc, M. Hoppy aime Mme Silver, première chose. Deuxième chose, il lui offre une formule de croissance pour sa tortue Alfred. Mme Silver a une tortue qu'elle aime beaucoup. Il achète 140 tortues. Il fabrique un attrape-tortue. Il échange pour une plus grosse chaque semaine. Donc, il veut faire croire à Mme Silver que la formule de nourriture qu'il a donnée, ça fonctionne. Fait qu'il met des échanges de tortues sur son balcon. Il lui a acheté 140 tortues de différentes grosseurs. Fait que finalement, Mme Silver, là, c'est le dénouement à la fin. Les personnages secondaires dans ce cas-ci, ce serait Mme Silver. Mme Silver constate que sa tortue Alfred grossit. Elle considère M. Hoppy comme un héros. Il la demande en mariage. Ça, c'est le dénouement. Et à la fin, ben, ils se marient. Ils ont eu beaucoup de tortues. Alors, c'est un outil qui est agréable pour les enfants puis qui les aide justement à comprendre la structure d'un texte. Quand ils sont un peu plus vieux, bien là, vous allez à la page suivante. Vous allez voir, c'est un peu moins ludique, mais c'est le même principe. Donc, la page, la carte du récit, la même chose. Le titre, l'illustrateur, l'auteur, le début. On se situe toujours, pour aider les enfants à réaliser que quand tu racontes ou que tu lis une histoire, hein, ça prend un lieu, un moment, des personnages, où ça se passe, qu'est-ce qui se passe, l'élément déclencheur, la solution, que fait-il, la fin de l'histoire. Et tes commentaires sur le livre, c'est toujours bon d'amener l'enfant à réagir par rapport à sa lecture. Est-ce qu'il a aimé ça? Est-ce qu'il y a eu des craintes, des questions? Est-ce que ça lui a donné des projets? Est-ce qu'il a voulu faire quelque chose suite à sa lecture? Alors ça, c'est la carte du récit. Ce serait pour des enfants un petit peu plus vieux. Ensuite, tes réactions par rapport au texte, la page suivante. Ici, encore là, si on veut amener l'enfant à réagir, et puis, on veut aussi susciter une expérience, créer un lien avec l'histoire, qu'il s'approprie l'histoire. Ce ne soit pas juste quelque chose qu'il lit, puis qu'après ça, on ferme, puis on passe à autre chose. Oui.
Juste une petite question. Moi, j'ai tendance, on lit différentes sortes de choses avec nos enfants, mais des fois, c'est des très longs livres pour leur âge. À ce moment-là, est-ce qu'on le découperait par section, puis on le fait plusieurs fois?
Oui, exactement. On pourrait faire ça aussi. Okay. Un chapitre, parce par exemple. Dans
c'est
chapitre.
Ça, parce qu'à la fin du livre, je ne suis pas sûre qu'il suffit.
Exactement. Alors, vous ajustez, vous vous adaptez selon le type de lecture, selon l'âge de l'enfant, mais c'est une très bonne idée. Alors, les questions qu'on peut se poser, que l'enfant peut se poser par rapport au texte. Quel est ton personnage préféré? Pourquoi? Quel personnage as-tu le moins aimé? Pourquoi? Donc, tu sais, ça demande une réflexion, mais c'est comme ça qu'il va s'approprier l'histoire. Quelle est pour toi la phrase ou le mot le plus important de l'histoire? Puis, il y a toujours un pourquoi. Des fois, c'est embêtant. Il y en a qui ne savent pas pourquoi. Ce n'est pas nécessaire qu'ils répondent à toutes les pourquoi non plus. Il ne faut pas que ça devienne trop astreignant ou trop lourd. Mais quand même, demandez-vous au moins pour 4-5 questions que vous aimeriez avoir la raison. Si tu pouvais être un des personnages de l'histoire, lequel serais-tu? Quelle action as-tu trouvé la plus importante dans cette histoire? Quel événement t'a le plus surpris? 7. Selon toi, cette histoire est-elle comique, triste, extraordinaire, ordinaire, réelle, irréelle? Changerais-tu la fin de l'histoire? Puis si oui, bien, comment t'aurais aimé que ça finisse? Selon toi, pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce livre? Et écris une question que tu aimerais poser à l'auteur si tu avais l'occasion de le rencontrer. Puis, Gallimard, qui fait des entrevues avec ses auteurs, si vous allez sur le site de Gallimard, Folio Junior, entre autres, vous allez voir Gallimard, Folio Junior, il y a des entrevues, vous allez chercher un petit peu, vous allez trouver justement des entrevues avec des auteurs, avec les enfants peuvent après ça mieux les connaître. Oui.
À quel âge ou en quelle année vous pensez qu'un enfant peut répondre à ces questions?
Bien, tout jeune, vous pouvez soulever quelques questions. Ton personnage préféré, par exemple, tu sais, ça peut se faire oralement au début. Tout au début peut se faire oralement, puis tout au début peut se faire quand ils ne sont pas encore capables de lire ou d'écrire comme il faut. Faites faire des dessins. Dessine-moi ce que tu as aimé le plus dans le livre, ou l'événement que tu as aimé le plus, ou le personnage que tu as aimé le plus. Le dessin, quand ils sont jeunes, c'est très, très pédagogique. Ils apprennent beaucoup à formuler leurs pensées à travers le dessin. Donc, bas âge, vous lisez à haute voix, Et tout se passe oralement, puis avec le dessin. Quand ils commencent à être un peu plus vieux, ils sont capables de répondre par écrit. Allez-y par écrit. Oui.
Oh,
5 ans, 4, 5, 6 ans. À partir de 4 ans, on peut remplir un épouvantail avec l'enfant. C'est le parent qui le remplit. Moi, quand j'étais tout jeune, c'est moi qui remplissais l'épouvantail, mais ça leur donnait une structure. Puis c'est eux qui me donnaient les réponses. Ça va? Oui.
Mais mon garçon, il est quand même assez. Ben, il a 6 ans. Là, ça
oui.
Fait longtemps qu'on lit avec lui. Puis j'ai trouvé que ça l'a aidé à sa concentration pendant la lecture, le fait de lui demander après.
Oui.
Raconte-moi ce que je viens de te lire ou une petite question. Puis là, il sait qu'il va se faire poser une question, fait qu'il écoute encore plus, puis on dirait son intérêt plus.
C'est bien. Puis quand vous lisez un livre avec, mettons, plusieurs chapitres par jour, bien, pas par jour, mais disons par semaine, quand on revient, on demande toujours, bien, qu'est-ce qu'on fait un retour? Fait que ça aide justement l'enfant, bien, il faut que je sois attentif parce que maman va me demander qu'est-ce qu'on a eu hier ou la semaine dernière. Fait que c'est bien. Ensuite, la carte du personnage. Donc, on tourne à la page suivante. Et dans ce cas-ci, la carte du personnage, bien, si, par exemple, ici, le livre de Jeanne d'Arc, qui est excellent. C'est écrit par Michael Morpurgo. Prenez pas en note où le trouvez, il n'est plus disponible, d'accord? Mais si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir à la table de livres. Je vous ai parlé que j'avais un cahier de 20 milieux sous les mers. J'en parlais un petit peu à la fin. Mais j'ai aussi, suite à avoir étudié le livre avec les enfants, fait un cahier de Jeanne d'Arc. Et j'ai fait faire quelques copies avec droit de reproduction chez CopyBec. Du livre, s'il y en a qui étaient intéressés à faire la lecture, puis si jamais vous voulez avoir un cahier avec plein d'activités rattachées. Mais je vous le donne en exemple. C'est un très beau personnage. La façon dont il est écrit, Michael Morpurgo, rend ça vraiment accessible pour les enfants. Il est très respectueux. C'était une femme qui avait une grande foi. Souvent, elle est présentée, si vous avez vu les films de Jeanne d'Arc, elle est présentée comme une folle illuminée, mais c'est pas ça du tout. Dans ça, on la voit très, très lucide, mais très courageuse. Très loyale, puis avec vraiment de bons principes. C'est une très belle histoire, un beau personnage. Et justement, on avait rempli ça ensemble. On avait fait toute une étude sur elle. Et si je vous donne des exemples sur le personnage... Ah ben, je m'excuse, je pensais que c'était Jeanne d'Arc parce que dans l'auto, je regardais le cahier que ma fille a rempli avec le livre de Jeanne d'Arc. Puis c'est ça, c'était le personnage de Jeanne d'Arc que j'avais en tête. Mais en fait... celui que j'ai sur mon acétate ici, c'est le capitaine Nemo, donc le personnage principal du livre « 20 milieux sous les mers ». Alors, le capitaine Nemo, ce que vous faites, vous écrivez le nom principal du personnage dans le carré. D'accord? Bien, je ne sais pas si vous voulez l'écrire sur votre feuille, si vous voulez en faire des photocopies, c'est peut-être mieux de l'écrire sur... écrire où vous voulez, mais je vous suggère d'écrire plutôt sur la page principale, la première sur le dessus. Donc, dans le carré, c'est le nom du personnage. Donc, dans ce cas-ci, ça serait « capitaine Nemo ». Dans les ovales, il y a 4 ovales autour, on écrit des qualités du personnage. Puis qu'est-ce que dans l'histoire te permet de dire que ce personnage-là est, dans ce cas-ci, par exemple, ingénieux? Alors, ingénieux, pourquoi il est ingénieux? Bien, il a découvert un passage sous le canal de Suez. Il a conçu les plans d'un sous-marin. Il a inventé une bouteille de plongée. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de voir qu'il est ingénieux. Qu'il est très riche. Alors, il a des tableaux de Léonard de Vinci et autres grands maîtres à bord du sous-marin. Il possède une bibliothèque de plus de 12 000 livres. Il a fait construire un sous-marin à ses frais. Donc, alors, dans les petits ronds autour, il y en a 3 chacun. Des fois, ils peuvent juste en avoir 2, c'est pas grave, mais on lui demande de chercher des qualités. Je m'excuse, moi aussi, c'est des ronds. Vous avez raison, après ça, je l'ai fait à l'ordinateur, effectivement, dans les grands carrés. Merci. Donc, dans les grands carrés, tout autour, c'est ça, on remplit en rapport avec les qualités qu'on a découvertes. Ça va? Alors, la carte de personnage, et si vous regardez en bas, c'est marqué « Tiré des textes littéraires à l'école », Jocelyne Giasson. C'est un excellent outil, si jamais vous pouvez vous le procurer. 2000, c'est déjà une antiquité pour aujourd'hui. Mais il est peut-être encore disponible en librairie, sinon à la bibliothèque, mais il y a beaucoup d'idées, entre autres le carnet de lecture qui peut être, j'en ai pas parlé ici parce qu'on pourrait faire un atelier juste sur le carnet de lecture, ça se passe plus en équipe de 3, 4, 5, même je dirais 5, donc ça prend quand même une bonne famille ou d'autres familles qui lisent le même livre avec vous. Quand on avait fait 20 milieux sous les mers et Jeanne d'Arc, moi je l'avais fait avec des amis de mon groupe d'école maison, puis on avait fait dans les deux cas un cercle de lecture à la fin de l'activité. Ça a été bien intéressant. Donc, c'est ce texte littéraire à l'école de Jocelyne Giasson. Vous avez la référence en bas de page et c'est peut-être encore disponible. Sinon, en bibliothèque, oui.
Ça comporte quoi sur le...
Les textes littéraires à l'école?
Est-ce que c'est une série de textes?
Non, c'est vraiment... Ben, elle donne des exemples de textes, bien sûr, mais comme ça, je l'ai tiré de là, le chose suivante par la suite. Exactement, activité littéraire. Donc, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'idées, de suggestions très intéressantes qu'on peut aller chercher dans ce livre-là. C'est fait au Québec, puis c'est bien intéressant. Ça va?
Dans le cadre de personnages,
oui.
Un enfant à partir de quel âge qui peut être capable de faire ça?
Ben, ça va? Oui. D'accord. Encore là, on peut le faire quand ils sont plus petits, on le fait avec eux. Puis quand ils sont un peu plus vieux, ben c'est lui qui le remplit. Donc à partir de, c'est juste que mettons s'il y a juste 4, 5 ou 6 ans, on fait une ou deux qualités, on en charge, c'est plus, on allège, on fait ça plus léger, mais au moins une qualité. Puis pourquoi okay. Tu dis qu'il est comme ça le personnage? D'accord. Okay. Alors, on l'a juste.
C'est aussi la grosseur du livre.
Bien sûr.
Sur les exemples qu'ils peuvent trouver.
Ben oui, c'est ce livre sera très court. Il n'y a peut-être pas beaucoup. On n'a peut-être pas 3 carrés à remplir sur la qualité en question. Mais c'est ça. C'est l'idée de l'habituer à observer puis à prendre des notes. Ça va? Le suivant, dans votre cahier ici, ça va être le graphique de l'histoire. Alors, vous voyez ici. Bonne nouvelle en haut, 5. Mauvaise nouvelle en bas, ça va jusqu'à moins 5. Et de 1 à 12, c'est la séquence des événements. Je vous donne un exemple. Ici, c'était tiré de Christophe Colomb. On avait étudié les explorateurs, la découverte de l'Amérique. Et puis, en lisant l'histoire de Christophe Colomb, bien, on voit le premier événement, 1, on le situe à moins 1. Son projet est d'abord refusé. Non, attendez, je m'excuse, je n'étais pas le abonné. Alors, si tu es à moins 3, son projet est d'abord refusé. C'est une mauvaise nouvelle. Tu veux partir, tu cherches du financement, puis on te dit non, puis c'est fait dire non plusieurs fois, entre autres. Ensuite, le deuxième événement, donc le point 2, on le met au niveau 5. Donc, ça va faire quelque chose. Attendez, je m'excuse. Ça fait un genre de graphique. Regardez, ça donne ça à peu près comme ça. C'était en dentis pas mal. Hein. Il y a eu des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles tout au long de sa carrière, Christophe Colomb. Mais ça donne un petit peu une idée. Puis l'enfant évalue, tu sais, c'est-tu vraiment une super bonne nouvelle, ça vaut un 5, ou ça peut être juste un 2 ou un 3, ou fait que ça l'aide aussi à pouvoir donner une dimension aux événements là, en termes d'intensité. Alors, 2, Fernand et Isabelle d'Espagne acceptent de financer son voyage. On a mis ça à 5. Troisième événement, la reine, non, je ne sais pas trop, annonce... Ah, la vigie, excusez-moi, j'ai de la misère à me relire. La vigie, donc celle qui est la personne en haut du mât, annonce qu'elle voit la terre, mais c'est un amas de nuages. Donc, c'est plutôt décevant, on a mis ça à moins 2. Au numéro 4, l'équipage veut s'en retourner et menace de se mutiner. Bien là, on a mis ça à moins 4, puis ça pourrait même être un moins 5. Par contre, le cinquième événement, les 3 navires accostent enfin sur ce qu'ils croient être les Indes. Donc, ça, c'est un 5, on est rendu à notre vu, on a atteint le rivage. En 6, Colomb constate qu'il n'y a pas d'or sur l'île. 7, c'est un autre événement un peu décevant. 8, ça revient à une meilleure nouvelle. 9, la Santa Maria s'échoue sur les rochers. Bien, ça, c'est un moins 4, moins 5. 10, on remonte dans la colonne. 11, Colomb retourne en Espagne et est accueilli triomphalement à la cour. Donc, vous voyez un événement en dentis comme ça, c'est le principe du graphique de l'histoire. Mais ça aide aussi l'enfant, c'est ça, à voir que ben, des fois les histoires finissent bien, des fois les histoires finissent mal, mais il y a toujours justement des rebondissements, soit heureux, soit malheureux. Ça va? Alors, l'activité suivante, question de compréhension. Alors, vous pouvez... Oui, il y a une question, oui?
Pour chacune de ces pages-là, est-ce que vous faites à chaque livre qu'ils lisent ou c'est juste
non.
De temps en temps?
Exactement. C'est des outils que je vous donne. Alors, ajustez-les selon la lecture. Il y a un livre, on va en parler tout à l'heure au niveau du vocabulaire, Le vent dans les saules. C'est un super beau petit livre, mais que faut vraiment, c'est le parent. Moi, je l'enfant soit adolescent. Moi, je l'aurais lu, ils étaient au primaire. Mais c'est moi qui devais lire parce que c'est un niveau littéraire très avancé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est tellement beau. C'est des histoires avec des personnages, des animaux sur le bord d'une rivière, là, le vent dans les saules. Mais le vocabulaire qui est dans ça est tellement riche. On a fait des pages et des pages juste de vocabulaire avec ce livre-là. Fait que c'est tout ce que je faisais. Puis à l'occasion aussi, je leur ai demandé de dessiner. Il y avait des descriptions très belles, très riches. Qu'est-ce que tu vois quand je lis ça? Dans ce cas-là, j'ai juste fait du vocabulaire puis quelques dessins. C'était suffisant. Fait que ça dépend. Oui?
Vous dites que dans ce cas-là, j'ai juste fait ce livre-là. Ça veut dire que le livre
Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai eu, avec ce livre-là, Le vent dans les sauts, j'ai seulement touché au vocabulaire. J'ai pas fait question de compréhension de texte, j'ai pas fait d'autres activités littéraires en rapport avec ce livre-là.
Mais vous continuez dans le livre de grammaire?
Oui, exactement. Oui, exactement, c'est ça. Ça dépend, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner un exemple, justement, avec Un milieu sous les mers. Ça dépend de l'objectif. Mais si c'est simplement une lecture, on n'est pas obligé justement qu'à toutes les lectures qu'on fait, il y a une activité. Des fois, on peut juste lire, on s'assoit, on lit pour le plaisir. Avec ma fille, ma plus jeune, lorsqu'il restait juste elle à la maison, elle était rendue en secondaire 4, on faisait les quatre filles du Dr. Marsh. Bien, c'était un petit temps, on prenait un thé, on avait nos tasses spéciales, on allait s'asseoir au salon, puis on a lu les quatre filles du Dr. Marsh ensemble. Elle est adolescente, elle a 15 ans, 14-15 ans, mais c'était un beau temps, mère-fille, ensemble au salon, à prendre un thé, puis à lire une super belle histoire de filles, mais avec des très belles valeurs. Bien, dans ce cas-ci, c'était juste pour le loisir. Mais ce que je vous donne là, c'est des suggestions, puis vous prenez ce qui vous a, qui fait avec votre famille, avec le livre que vous avez choisi. D'accord? Merci. Alors, question de compréhension, bien, c'est l'idée de les fameux qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Alors, qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Alors, c'est des questions qu'on peut poser à l'enfant en rapport avec le texte. Alors, c'est les questions, il faut que ce soit des questions ouvertes, pas une question qui est juste un oui ou un non. Ça, on appelle ça une question fermée. Ça peut être nommer quelque chose, décrire le personnage, les lieux. Donc, ça peut être à partir de petits livres, comme par exemple, je vous donne ici Les petits mensonges de Benjamin. C'est pour les enfants plus jeunes, là, au niveau première, deuxième année. Les Ourson Barenstein aussi, c'était des belles séries qui n'existent plus. La jeune femme qui m'accompagne ici aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle les a trouvées dans des friperies, dans des librairies usagées. Il y a des séries comme ça qui étaient excellentes, mais qui sont plus disponibles, mais sûrement c'est ça qu'on peut les retrouver. Là. Alors, je vous donne des exemples ici de questions qu'on peut poser. Les petits mensonges de Benjamin. Ça, je l'ai lu la veille, puis tiens, j'ai sorti ces petites questions-là. Puis après ça, je le tape le lendemain, puis je le prépare pour eux-mêmes, pour mes propres enfants. C'est pas plus compliqué que ça. Ça prend peut-être une demi-heure à faire, mais après ça, le lendemain, vous avez votre lecture et vos questions de compréhension qui sont prêtes pour les enfants. Puis c'est un livre qui vont aimer, qui vont s'approprier. Parce que souvent, quand on regarde, où est-ce que j'ai, c'est ça ici, par exemple, ça ici, c'est le français, un défi niveau secondaire 3. C'est fait par Guérin. C'est bien, je me suis inspirée de beaucoup de choses que Guérin a fait, mais ça demeure quand même des textes limités. Et c'est souvent des extraits, comme ici, on dit la grande, la pause, je ne sais plus quoi. Alors, c'est juste un extrait de texte. Puis pour les plus jeunes, c'est encore plus petit, c'est peut-être des fois juste un paragraphe. Mais c'est souvent un problème avec ces cahiers d'exercices-là. Ils ont une bonne intention, mais c'est juste des extraits. Moi, je vous encourage à prendre des livres complets, des petits livres quand ils sont plus jeunes. Si l'enfant a de la difficulté à lire, vous pouvez lire à un niveau plus avancé, mais c'est vous qui le lisez. Quand l'enfant sera capable, comme Le vent dans les sauts, c'est un niveau très avancé, mais quand c'est moi qui lis, puis je mets de l'intonation, puis je mets des gestes, puis tu sais, j'implique les enfants, je pose des questions, bien, ils comprennent. On ne doit pas avoir peur d'avoir un niveau littéraire. Au contraire, ça les éveille à des belles structures de phrases, d'un vocabulaire plus riche. Donc, c'est pour ça. Ces livres-là, je m'en suis servi beaucoup. C'était des livres de référence, des cahiers d'exercices, la même chose, par exemple. Bon, grammaire, cahier 100%. Fait que je faisais des exercices à travers ces livres-là, mais je vous encourage beaucoup, si vous avez le temps et vous avez le goût de le faire, bien, je trouve qu'on va plus loin quand on fait nos propres exercices à travers les lectures que nous, on choisit pour nos enfants, puis des lectures qu'on trouve plus appropriées. Si jamais ça vous intéresse, j'ai une table ici en plein centre là, de la table des exposants. Puis ici, pour 1$, c'est une liste de 125 titres littéraires. Moi, j'ai lu pendant plusieurs... Il y a beaucoup d'heures là-dedans. Et j'ai pris plusieurs livres. La Bibliothèque idéale, la Bibliothèque des enfants, des trésors pour les 0 à 9 ans, la Bibliothèque des jeunes, 9 à 99 ans, Lire et aimer lire au secondaire, Book that build character, Books children love. Alors, un paquet de ressources comme ça. Puis j'ai essayé de voir qu'est-ce qui était disponible en français. Et j'ai des livres ici pour les débutants, 5 à 8 ans. Des lectures intermédiaires 9 ans et plus, des livres faciles qu'on trouve facilement, et puis les classiques, donc, je donne par exemple Pinocchio, le livre de la jungle sans famille, Le petit prince, Alice au pays des merveilles, La toile de Charlotte, il y a plusieurs titres pour les plus jeunes, puis plusieurs titres pour les 12 ans et plus. J'ai aussi mis de l'autre côté la littérature québécoise, des livres les plus connus dans la littérature québécoise, puis la littérature chrétienne, de très bons romans aussi qui sont disponibles pour les enfants avec, écrits par des chrétiens, les livres de référence que je me suis servi pour faire cette liste-là. Et juste pour vous mentionner, quand vous faites la sélection d'un livre, pourquoi un classique, on ne se trompe pas, c'est que on dit souvent que les classiques sont, élaborés selon les critères suivants. Longévité. Le livre est aimé à tout âge. Alors, un enfant, C.S. Lewis disait que si un livre pouvait être intéressé un enfant de 10 ans, il devait pouvoir intéresser un adulte de 50 ans. Alors, le livre doit être intéressant pour tous les niveaux d'âge. Ensuite, capte et maintient l'intérêt de l'enfant. Les valeurs véhiculées par l'auteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui parlent peut-être de la réalité des jeunes qui vivent aujourd'hui. Ça peut être intéressant qu'ils en lisent à l'occasion, surtout de... Il y a des séries qui parlent des milieux difficiles, mais c'est pas vraiment ces livres-là dans lesquels on veut vraiment investir. On veut des livres avec des belles valeurs, avec des héros qui sont courageux, qui défendent le bien. Alors, c'est plutôt ces livres-là dans les classiques. Il peut y avoir des histoires, il peut y avoir des mauvais personnages, il peut y avoir des méchants, mais est-ce que c'est le méchant qui triomphe ou c'est le bien qui triomphe? Et c'est ce qu'on veut donner à nos enfants, des modèles, des héros à regarder, qui vont les motiver. Puis moi, je voudrais être comme lui ou comme elle, justement comme Jeanne d'Arc, ce modèle de courage, de loyauté, de persévérance. Puis la qualité littéraire. Donc, les classiques sont reconnus pour toutes ces choses-là. Puis la qualité, on veut un beau niveau, un niveau riche, un vocabulaire qui soit intéressant, puis un niveau de langage qui soit plus élevé. Je trouve que les livres de la courte échelle, en passant, c'est l'objet de tout un autre atelier, ça, la littérature jeunesse. Mais les livres de la courte échelle, c'est vite lu, vite oublié. C'est vraiment très facile à lire. Et puis, j'appellerais ça, c'est ça, le fast-food de la lecture pour les enfants. Je vous encourage pas, peut-être en lire quelques-uns pour savoir ce que les petits amis peut-être autour d'eux lisent, là, mais lisez-les avant vous-même. Vous allez voir que c'est ça. C'est vide.
C'est vide.
Oui, c'est très, très vide. Alors, c'est pas ce genre de livre-là qu'on veut donner à nos enfants. On veut leur donner du steak, si vous êtes végétarien, d'un bon mets de plein de légumes, mais on veut pas leur donner du McDo à manger. Alors, c'est bien. Alors, c'est ça. Je donne des exemples de questions que j'avais préparées pour les petits mensonges de Benjamin. Bon, nomme deux choses que Benjamin sait faire. Une question, est le mensonge de Benjamin? Pourquoi Benjamin a-t-il menti? Quelle surprise Castor a-t-il apporté? Pourquoi Benjamin est-il malheureux? Comment Benjamin va-t-il résoudre son problème? Quels ingrédients faut-il pour faire une tarte aux mouches? Benjamin avait dit qu'il pouvait manger tant de mouches en tant de temps. En tout cas, finalement, je pense qu'il a fait la tarte, là, il a réussi à les manger, mais plus une période. Oui, c'est ça, il disait qu'il peut en manger plusieurs en même temps. Et là, finalement, il a menti, puis c'est ça, il y a des belles petites leçons à travers tout ça, puis après ça, il se reprend, puis il fait une tarte, là, il va manger des mouches, mais pas toutes en même temps. Alors ça, c'était pour nos questions de compréhension. Comparer la version originale avec l'adaptation. Ça peut être intéressant, par exemple, La petite sirène. Alors, les enfants connaissent beaucoup La petite sirène de Disney, mais la vraie petite sirène, ça finit pas comme ça. Alors, le petit chaperon rouge, il finit dans le ventre du loup, puis je pense qu'il sort pas du ventre du loup. Donc, allez voir avec les enfants les versions, peut-être la version Disney, la version qu'on retrouve à la bibliothèque, mais allez voir la version originale, Charles Perrault, la version que Charles... Oui, oui, exactement.
C'est ça.
La Belle et la Bête, qui est quand même un beau DVD de Disney, la lecture, c'est tout petit, mais c'est très, très beau, c'est très bien écrit aussi. Donc, ça peut être une activité qu'on fait avec eux, on compare les deux, puis aussi, quelle version t'aimes le plus? Ensuite, le résumé de livre, un mini-livre avec dessin pour les enfants tout petits, comme quand on avait fait le 20 milieux sous les mers, ma fille la plus jeune, la première fois. Elle avait peut-être 6 ans. Fait que je lisais pour mes plus vieux. Eux, j'avais plein de questions. Mais pour Marie-Claire, elle faisait juste un dessin de l'aventure qui s'était passée dans ce chapitre-là, par exemple. Donc, elle a fait un petit mini-livre. Elle a fait des dessins. On les a brochés. Puis ça, c'était son petit livre de 20 milieux sous les mers. Fait que ça pourrait être juste ça. Ou ça peut être un résumé à la fin de la vie. Ça, c'est une autre activité. On pourrait juste... Tu lis le livre, puis tu me le résumes. Dis-moi un peu l'essentiel du livre avec tes commentaires. Puis, trouver un titre au chapitre, dépendamment des, comme 20 milieux sous les mers encore là, il y a des éditions, mais il n'y avait pas de chapitre. Fait que je demandais aux enfants, trouve un chapitre. Tu lis le chapitre, puis, comme, c'est une belle façon résumer aussi l'histoire. Je sais qu'à l'école biblique où ma fille est allée à un moment donné, il faisait tous les livres de la Genèse, mais pas de la Genèse, tous les livres de la Bible. Il fallait qu'il trouve un titre à chaque livre, ben, pas le titre Genèse, mais tu sais, le livre des commencements. Alors, chacun des livres, ça pourrait être un exercice, ça aussi, faut que tu lis un livre de la Bible, tu lui donnes un titre. Donc, c'est une activité qu'on peut faire en rapport avec le livre. Ça va, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ça va très bien, on va arriver dans nos temps, super. Je vais juste me prendre une petite gorgée d'eau, par contre. Alors, maintenant, on va arriver aux activités d'exercice de grammaire. On va essayer de rendre ça intéressant, la grammaire, hein? Puis, en passant, je me souviens d'avoir entendu il y a plusieurs années à une conférence d'École Maison que vous n'avez pas besoin de refaire toujours les mêmes règles. Moi, j'en reviens pas le tout. Bien, remarquez, j'ai encore de la misère, là, mais même après l'avoir enseigné trois fois pendant plusieurs années, mais les homophones, combien de fois vous allez refaire les mêmes homophones, cinquième, sixième année, pour un secondaire 1, secondaire 2? Regardez, quand on le sait, on le sait. Alors, il n'y a pas besoin de revenir constamment sur toujours. À l'école, prenez un cahier d'exercice de grammaire de troisième, quatrième, cinquième, sixième année. On rajoute à chaque année, mais les mêmes exercices reviennent tout le temps. Quand tu sais une leçon, quand t'as appris tes tables de multiplication, tu les sais. En principe, les règles de grammaire, ça va être la même chose. Quand on le sait, on le sait. À l'occasion, on revise. Mais ne perdez pas votre temps à toujours refaire les mêmes exercices. Puis ce qui est bien quand on fait nos exercices nous-mêmes, c'est qu'on sait qu'est-ce que l'enfant a besoin. Faites écrire, ma fille, quand elle était à l'intégrer l'école, il lui faisait écrire au début de l'année en français un texte pour voir c'est quoi ses forces, c'est quoi peut-être qui est à travailler. Fait que ça pourrait être quelque chose en début d'année. Faites-leur écrire un texte. Vous allez voir, c'est-tu les verbes qui ont de la misère à conjuguer? Est-ce que c'est les pluriels? Ils oublient de mettre des S partout? Est-ce qu'il y a un mot avec lequel ma fille est née, elle fait encore, mais encore un S à encore? Et des fois, elle m'envoie un courriel, ben, elle me dit, j'ai mis ton S, et je lui rappelle que. Donc, il y a des choses comme ça qu'on voit sur lesquelles ils accrochent. Ben, c'est là-dessus qu'on les fait travailler. Le reste, s'ils comprennent bien, on perd pas de temps avec ça. Alors, un exemple de dictée, je vous mets, c'est la page qui est ici, il y en a c'est leur dernière page, il y en a c'est l'avant-dernière, donc vous voyez ici, moi ce que je faisais avec la dictée, c'est que, par exemple, je donne ici 20 milieux sous les mers, je prenais une section, un paragraphe. Souvent, je me souviens justement, ma privée a fait première, deuxième année à l'école publique, je trouvais tout ça plate, les dictées. Préparer une liste de mots pour une dictée à la fin de la semaine. Mais un mot, c'est fait pour aller dans un contexte. Pas une liste de mots tout seul sur une feuille. C'est tellement aride et inintéressant. En tout cas, moi, je trouvais ça pénible. Je pense que ma fille devait trouver ça pénible aussi. Puis là, le prof demande les mots qu'ils ont appris. Mais une dictée, les mots, c'est vivant. Alors, il faut les mettre ensemble. Fait que moi, ce que je faisais, puis on l'adapte, ça peut être juste une phrase, un petit livre de Benjamin, un petit livre, une petite histoire d'enfant. Mais ce que mes enfants faisaient, c'est qu'il... Bon, je vous donne un exemple ici. Vous avez un texte ici. Bon, autour du Nautilus, les eaux apparaissaient imprégnées de lumière électrique. Le fond sableux... Ils m'ont dit pas m'éloigner trop de ça. Le fond sableux était net et clair. Des hommes de l'équipage, revêtus de scaphandres, s'occupaient à déblayer des tonneaux à demi pourris, des caisses éventrées, au milieu d'épaves noircies. Bon, je continuerai pas plus loin, mais mettons un petit paragraphe comme ça. Je pense que c'est peut-être plus une dictée du secondaire. Mais là, ce qu'on faisait avec ça, c'est qu'elle souligne, vous voyez, tous les verbes qui sont dans la dictée. Puis après ça, on remplit en haut. Alors, le verbe apparaissait. C'est à quel mode? Ça, c'est à l'indicatif. C'est à quel temps? C'est l'imparfait. Quelle personne? Troisième personne du pluriel. C'est quoi l'infinitif? Le verbe apparaître. Alors, tout en faisant une dictée, on travaille des notions de grammaire. Ça lui fait reviser à chaque fois quel mode, quel temps, quelle personne. Après ça, vous voyez, je faisais demander tous les adjectifs, trouve les adjectifs, les attributs, les participes passés sans auxiliaire, accompagnés du nom qu'ils qualifient. C'est souvent là que les enfants accrochent, hein, comment accorder. Puis il y en a beaucoup dans ça ici. Alors, les eaux apparaissaient imprégnées, E-E-S, des hommes de l'équipage revêtus, T-U-S, s'occupait à déblayer des tonneaux à demi pourris, IS, des caisses éventrées féminin, EES. Il fallait qu'ils mettent caisses éventrées, puis ils mettent caisses féminin pluriel, éventrées, EES. Fait que ça, c'est un petit exercice qu'on faisait. Fait que tout en faisant, puis ça, ils devaient l'écrire, mettons, deux, trois fois dans la semaine, puis à travers ça, il y a des mots compliqués. Scaphandre, il faut qu'ils sachent comment écrire le mot scaphandre. Tonneau, N-E-A-U-X. Donc, j'avais des mots. Fait que je choisissais mes petites dictées en fonction du niveau de difficulté. Puis, il l'écrivait pendant 2-3 jours. Puis, le vendredi, par exemple, là, je lisais à haute voix ce qu'ils avaient recopié toute la semaine. Puis là, on faisait la dictée. Puis, s'il y avait une faute, deux fautes, c'est ça. C'était une façon de vérifier un petit peu. Oui, Annie?
Ah, mais ma question, tu y as répondu. Je pense que c'était la copie des 2-3 premières fois et ensuite, il y avait une dictée.
Exactement. Okay. Puis là, je parle de secondaire, tu sais, mais au primaire, ça peut être très simple.
Juste une phrase.
Juste une phrase. Exactement. Puis tu cibles des mots que tu voudrais qu'ils apprennent. C'est toi qui choisis les mots, là. Puis c'est toi qui choisis ce que tu veux leur faire travailler comme notion, oui.
J'ai un enfant qui rentre en troisième, un autre qui rentre en deuxième.
Oui.
Est-ce que ça serait la même idée?
Oui, 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 c'est une bonne question, ça.
C'est parce que je veux pas rater comme...
Tu élèves. C'est sûr, ça dépend. Des fois, il peut y avoir une grande différence. Comme un garçon de 5 ans et une fille de 5 ans, souvent, la fille de 5 ans va être plus éveillée, plus prête. Le garçon de 5 ans va vouloir jouer jusqu'à 7-8 ans. Je généralise, là. Mais si vos enfants sont sensiblement du même âge, moi, j'ai fait beaucoup de choses. Tous mes cahiers d'activités, là, je les faisais avec mes deux plus vieux ensemble, ou des fois, c'est sûr qu'il y a 3 ans entre mon garçon et ma plus jeune. Mais entre mon garçon et la plus vieille, il y a 2 ans, puis j'ai fait beaucoup de choses, toute la même affaire. En fait, c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'on n'a pas à préparer, comme si vous avez 3 enfants, 3 curriculums ou 3 activités. En général, je pense que surtout s'il y a juste 1 an de différence, là, il y aura pas, le niveau va être le même. Je pense pas que ça va rabaisser celui qui est plus vieux. Puis je pense que le plus jeune va être capable de suivre aussi. Fait que c'est l'avantage. On fait des exercices qui vont convenir, qui s'ajustent pour le niveau de 2-3 enfants en même temps. Là. La notion est capable, on est capable, ils sont capables de suivre dans beaucoup de cas. C'est à vous de vous ajuster, mais c'est une bonne question. Oui.
Je sais qu'il y a des éditions comme Folio Junior, je crois. Oui. Je suis sûre qu'il y a comme un questionnaire à la fin. Est-ce que...
Ça peut être bien, mais c'est fait en France. Puis c'est pas la même approche, c'est pas la même culture. J'en ai fait quelques-uns, puis il y a quelques questions qui peuvent être intéressantes, mais pas toutes. Alors, mais ça peut être quand même un outil. Puis justement, des sites comme Folio Junior peuvent aussi avoir des questions sur leur site. Ça peut être intéressant, oui.
Votre dictée, c'était, vous repreniez le texte littéraire, vous laissez le trou?
Ah, non, il n'y avait pas de... Oui, exactement, je n'avais pas de trou. Mais d'éditer, il y a toutes sortes de façons d'en faire. Il y a aussi, comme vous dites, l'éditer à trou. Mais moi, c'était ça. Donc, pour un enfant plus jeune, on prend juste une phrase ou deux. Pour un enfant plus vieux, c'était un paragraphe. Puis on n'est pas obligé d'en faire à chaque semaine, parce que c'est quand même astreignant de faire des dictées. Puis, la correction, bien, mon garçon, ma fille se corrigeait l'un l'autre. Une fois que la dictée était finie, puis, t'as fait une faute, hein? moi, j'en ai pas eu. Je n'ai pas fait de faute, peu importe, mais ils se corrigeaient en même temps. Fait que ça fait une autre pratique aussi pour vérifier.
Donc, c'est vous qui inventiez d'autres contextes pour le mot, ou c'est eux qui fallait qu'ils...
Pour la dictée? Ah non, mais la dictée, moi, je donnais le paragraphe au complet.
OK, ce paragraphe...
Oui. Oui, je ne donnais pas juste un mot ou deux dans la dictée. Je donnais le paragraphe au complet. Je relisais le paragraphe, puis il fallait qu'ils l'écrivent autant que possible, sans faute.
Et s'ils avaient une faute?
Ben, c'est moins...
Ils recopient...
Oui, exactement. Ils recopient exactement 3, 4, 5 fois. C'est ça. C'est juste une façon différente de faire des dictées. Puis ça peut être... C'est pas absolu d'en faire régulièrement, mais assez souvent, c'est ça. C'est une façon de faire qui va nous aider à aller... Peut-être à plus maîtriser les mots qu'on veut qu'ils travaillent, les notions de grammaire et tout ça. Oui, exactement. Ça va? Le point suivant sur notre liste, c'est le vocabulaire. Toujours dans leur contexte, c'est bien important. Et je vous donne des exemples. Justement, Jules Verne est tellement riche dans ses vocabulaires. Pour chaque chapitre, je me retiens, j'en ai peut-être 4, 5, 6 par chapitre, mais j'aurais pu en trouver 15, 20, tellement c'est riche. Alors, ce que je faisais, il existe des poulpes de très grande espèce. Alors, j'écrivais la phrase. Là, en passant, c'est tout beau parce que ceux-là, je les ai mis dans mon cahier pour que vous puissiez vous en servir si vous voulez. Ça peut tout écrit à la main, là, mais tu as remarqué que maintenant, avec Word, ça va tellement bien. Mais moi, il y a 10-12 ans, le cahier, c'est mon garçon qui l'a tout copié. C'est lui qui est devenu un expert Word à la maison. Mais moi, je faisais tout ça à la main, puis lui me le recopiait après ça pour que ça puisse être distribué par la suite. Mais donc, vous voyez, j'avais écrit la phrase dans le mot dans le contexte, après ça, tu mets poulpe en dessous, puis là, il cherche dans le dictionnaire. J'avais donc un compatriote à bord. Pour des enfants plus jeunes, c'est quoi un compatriote? Il regardait de ses énormes yeux fixes à teinte glauque. Qu'est-ce que ça veut dire, glauque? Tu sais, glauque, ça a rapport avec une teinte. Les yeux sont à teinte glauque. On fait des liens. Une violente odeur de musc, M-U-S-C. Je pense que c'est Fred Pellerin qui a un spectacle comme ça aussi, une odeur de musc. Les monstres vaincus, mutilés, frappés à mort. Donc, on va dire ça, mutilé, ça a l'air de quelque chose qui est plutôt sanglant ou négatif. Alors, vous voyez, dans le contexte, comment est-ce que ça, le mot prend plus tout son sens. Puis, il y a des mots, c'est ça qu'on se rappelle, justement, parce qu'on les a mis dans un contexte, c'est plus facile après ça de se rappeler de leur signification. Ça va?
Souvent, les enfants sont assez éveillés pour déduire la signification dans le contexte.
Oui.
Tu leur donnes un mot, ils ne savent pas, mais tu leur fais une phrase avec, puis « Ah, OK, je comprends vraiment ce que tu
oui.
veux dire. »
Mais si je lui demande c'est quoi la signification, bien, j'ai une idée, mais là,
c'est pas toujours
c'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est important de voir quand même dans le dictionnaire. Mais effectivement, le contexte nous donne beaucoup d'indices. Ce qu'on peut faire aussi avec eux, quand une fois, moi j'avais plusieurs mots de vocabulaire comme ça, sur quand on étudie un sujet par exemple. Puis après ça, je vous donne un exemple. Chacun préparait un mot croisé par exemple, ma fille faisait un mot croisé pour son frère. C'était les mots de vocabulaire qu'ils avaient appris, puis ça leur permettait, en faisant le mot croisé, de réviser, puis de le dire pour eux, puis si je leur présente celui de son frère ou sa sœur, bien encore là, ils revoient à nouveau le mot. C'est une façon intéressante. Puis sur la dernière ou avant-dernière feuille que vous avez, pour les enfants plus jeunes, bien, on voit que tu peux écrire le mot dans un encadré ou tu peux le dessiner, puis en dessous, faire une phrase avec ce nouveau mot-là. Ou ça peut être le fun des fois de si l'enfant l'utilise dans la semaine, le mot en question, comme on avait vu le mot « lésiné ». Puis, ce qu'il voulait dire un petit peu de pas gaspiller, ben, pas gaspiller, mais en tout cas, cette idée-là. Fait que là, mon garçon, il aimait bien dire, ben, maman, tu lésines, là. Fait que, c'était une bonne façon de j'ai vu qu'il l'avait compris, qu'il l'avait mis dans son contexte. Fait que, on peut leur demander, si tu l'utilises cette semaine, ben, t'as un point de plus, ou peu importe, là, les encourager. Et finalement, exercice sur les règles de grammaire. Mettons qu'on est en train de voir le participe passé. Moi, j'ai souvent fait ça, reviser des exercices de grammaire. Par exemple, je vous donne un petit livre comme celui-là. Il y a des histoires déjà toutes faites à l'intérieur. Puis, c'est pas long à lire. J'ai essayé de trouver une page qui est un peu plus colorée. Bon, comme ici. Alors, je vais demander, bon, souligne en rouge tous les verbes, en bleu tous les noms, en jaune tous les adjectifs. Ça peut être un exemple. Si on fait ça aussi avec les dictées que je vous ai montrées tout à l'heure, les paragraphes. Et puis, encercle les adverbes de modalisation. On est rendu en secondaire 3 ou 4, OK? Je me rappelle même plus c'est quoi. Et puis, encadre les adverbes de... en tout cas, une autre sorte d'adverbe d'intensité. Fait que... Alors, moi, je lis le texte, puis je regarde dans ce qu'on a vu cette semaine en grammaire. Là, je veux qu'elle l'applique dans un texte réel, dans une vraie lecture, pas dans un petit exercice qu'elle a vu dans un cahier. Alors là, tu vas chercher, on va faire la notion dans ton cahier de grammaire, puis on va aller voir dans un vrai texte. Puis ça, c'est parce que ça, tu écris là-dedans, puis tu le jettes après, tu sais, ça coûte pas cher, puis c'est pour ça, plutôt que de le faire dans un beau livre qu'on voudrait garder, par exemple. Donc, c'est une suggestion qu'on peut faire pour les exercices de grammaire. Si jamais c'est ça, moi je vous le présente parce que c'est déjà tout prêt d'avance. Il y a beaucoup de ces choses-là en anglais, mais en français, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui en font. Je l'espère parce que c'est une belle ressource. Mais dans 20 minutes sous les mers, vous avez une section au début de compréhension de texte, des questions sur chaque chapitre. La même chose, c'est le même format dans Jeanne d'Arc. Je vais prendre Jeanne d'Arc parce qu'il est peut-être plus simple dans le sens que j'ai des questions de compréhension de texte, par exemple, pour chaque chapitre. Des questions de vocabulaire, toujours dans le contexte pour chaque chapitre. Puis par la suite, des questions de grammaire. Par exemple, place le préfixe et ou le suffixe entre parenthèses et réécris le mot de base, bon, sans les ajouts, gagner, regagner, désobéissante, enlève le dé. C'est un exemple. Je vous donne ici, trouve à la page 54 deux noms composés, quatre noms simples, quatre noms propres. Mais la phrase suivante au singulier, des éperviers affamés aux yeux perçants tournaient dans les parages. Donc, vous prenez des exercices que vous voyez dans les cahiers. Moi, j'ai fait un peu la même chose que ce que je voyais dans les cahiers que j'utilisais. Puis, j'applique des questions tout simplement au niveau de la grammaire que je trouve intéressante pour eux. Puis, comme c'est dans un texte, c'est plus réel, c'est plus facile de se les approprier, puis de comprendre, puis de faire des liens. Par exemple, juste 20 milieux sous les mers, 20 mille, c'est tout, ils peuvent tous trouver des homophones avec ça, 20 mille lieux sous les mers. Chacun des mots de ce titre-là, tu peux trouver plein d'homophones avec ça. Fait que juste là, tu as un exercice de grammaire sur les homophones, puis celui qui en trouve le plus, ben, mettons, il y a un beau petit collant supplémentaire. Mais donc, c'est pour ça que tu peux trouver des exercices à partir des lectures en rapport avec le niveau où l'enfant est rendu. Ça va? Tu as des questions? Donc, je continue. La suivante, c'est les projets thématiques. Ça, c'est la partie le fun d'un livre quand vous étudiez avec les enfants. La biographie de l'auteur, bien sûr. Encore là, c'est quand même assez facile. Jules Verne, c'est un auteur très connu. Les auteurs qui sont, comme je vous disais tout à l'heure, sur Folio Junior, souvent, il va y avoir une petite entrevue des informations sur l'auteur. Étudier l'époque, le pays, le milieu dans lequel l'histoire se passe. Par exemple, Jeanne d'Arc. Mais dans les deux livres que j'ai préparés, j'ai une section que j'appelle « À la recherche ». J'ai une section de projet d'écriture, j'ai une section que j'appelle « Partons à la découverte ». Mais 20 milieux sous les mers, c'est tellement riche. Avec 20 milieux sous les mers, on a pu aller, on a fait le tour du monde. Alors, j'ai des cartes géographiques de tous les endroits. Les enfants devaient aller positionner des cartes géographiques, sur la carte géographique tous les endroits qu'ils ont découverts. On a étudié les sous-marins. Donc, quand tu fais les sous-marins, c'est de la science. Quand on a étudié le pôle Nord et le pôle Sud, savez-vous que Jules Verne, à l'époque, on ne savait pas en 1870 que le pôle Sud était un continent. On croyait que c'était une calotte glaciaire comme au pôle Nord. Donc, le sous-marin, le Nautilus, il est sorti en plein milieu de sous la glace au pôle Sud. Fait que les enfants ont fait une recherche sur le pôle Sud. Puis, qui a découvert le pôle Sud? Les fameux... en tout cas, il y avait une compétition entre un Anglais puis un Scandinave. Donc, ils ont appris beaucoup de choses. Vous voyez que juste à travers un livre, on peut... Capitaine Nautilus, le capitaine Nemo, avait inventé une bonbonne de plongée autonome. Et ça s'est fait en 1943 avec Jacques-Yves Cousteau. Je sais pas si vous connaissez Jacques-Yves Cousteau, les plus âgés, on le connaît. Mais c'était un de nos grands explorateurs qui nous a fait découvrir les fonds marins. Bien, c'est une occasion d'amener les enfants à connaître c'est qui Jacques-Yves Cousteau, comment ça fonctionne, aussi des bonbonnes sous-marines. Fait que vous voyez qu'à travers le livre, on peut... Je vais vous montrer ici, il y a une petite carte. Puis le capitaine Nemo gardait ses passagers à bord contre leur gré. Alors, je vais faire à ma fille, à mes enfants, un texte incitatif ou argumentatif. Où est-ce que tu dois dire au capitaine Nemo, pourquoi il devrait vous laisser partir? C'est pas correct de vous garder à bord sans que vous soyez d'accord. Alors, j'avais d'autres textes. Jeanne d'Arc, c'était la seule femme dans l'armée, une armée de 5000 hommes. Mais qu'est-ce que tu penses de la place de la femme dans l'armée aujourd'hui? Tu sais, les femmes ont droit. Ou encore, elle avait été un procès injuste. Si tu avais été l'avocat de Jeanne d'Arc, qu'est-ce que tu aurais amené pour la faire libérer? C'est toutes des questions qu'on peut, avec lesquelles on peut travailler. Des œuvres d'art dans le bateau de le capitaine Nemo, il y avait plusieurs œuvres d'art. Alors, j'avais Raphaël, Léonard de Vinci, le Titien, fait une petite recherche, puis trouve une œuvre importante pour chacun de ces personnes-là. Je cherche une chose, puis c'est ça, j'arrive pas à la trouver. En tout cas, peu importe. Donc, c'est pour vous dire que des projets thématiques, il y en a de toutes les sortes. Et puis, dépendamment du livre, par exemple, la petite... c'était La Croix de Charlotte, ça peut être un beau livre ça, sur les araignées, le cochon, les foires de campagne, le vent dans les sauts, je vais parler du vocabulaire, la petite maison dans la prairie, on peut faire beaucoup de recherches sur la conquête dans l'Ouest, comment ils vivaient à cette époque-là, on peut faire des activités au niveau de se costumer comme eux autres, fabriquer le savon, fabriquer un vrai village québécois d'antan, Drummondville important, il y a plein d'ateliers très intéressants à ce sujet-là. Pinocchio, ça peut être un très beau livre aussi. On va chercher le monde des marionnettes, l'Italie, le livre de la jungle, ça peut être un autre beau roman sur justement les animaux en Inde. Vous voyez qu'il y a plusieurs, dépendamment du livre qu'on va lire, Don Quichotte à l'époque quand on l'avait lu, il y avait un théâtre en papier fait par ce monsieur qui a fait l'Évangile en papier aussi. Oui, c'est ça. Alors, on avait lu le livre, après ça, on est allé voir La pièce de Don Quichotte en papier, c'est magnifique. Fait que si vous êtes capable aussi de voir qu'il peut y avoir une exposition quelconque en rapport avec le livre ou un des sujets traités dans le livre, ça peut être vraiment intéressant. Le tour du monde en 80 jours. Actuellement, j'ai un document, c'est le tour du monde en 40 jours. C'est tellement d'ouvrages préparés, ces cahiers-là, que pour l'instant, j'ai juste la moitié du voyage de fait. Je ne sais pas si je vais finir le voyage. Je l'ai fait avec les enfants. Mais pour ce qui est d'un document complet, je ne sais pas si je vais le finir un jour. Mais le tour du monde en 80 jours, c'est passionnant ce livre-là. Si vous avez l'occasion de le lire avec les enfants, puis on visite plein de pays, on voit plein de moyens de transport, des animaux, on entend parler des Mormons aux États-Unis, on entend parler de la religion hindoue. J'en ai profité pour voir un petit peu c'est quoi les grands principes de la religion hindoue, les Mormons aux États-Unis aussi. Alors, il y a plein de choses qu'on peut apprendre à travers ces livres-là. Donc, c'est la notion ici des projets thématiques. Préparer un repas thématique, visiter une exposition au musée, s'habiller comme les personnages du roman, mimer des scènes, écrire une lettre à un des personnages ou inventer son journal. Par exemple, Jeanne d'Arc, elle est dans une des dernières pages à la fin du livre, elle est brûlée au bûcher à Rouen. Puis j'ai une page avec les noms des Canadiens français qui viennent de la région de Normandie. Puis nous, les Vaillancourt, du côté de mon mari, viennent de la Normandie. Alors peut-être que dans 1429, je crois, quand elle a été brûlée, il y avait un ancêtre de ma fille qui était là. Puis j'ai dit, imagine que ton ancêtre est présent lors du jour lorsqu'elle a été mise au bûcher. Puis écris comment tu vois ça. Fait que là, elle marque, mettons, je ne sais pas, c'est le mois de mai 1431 à 12h25. Là, il y a juste 12h25 qui n'est pas correct. Il faut la faire réaliser qu'à cette époque-là, on n'avait pas des montres à 12h25. C'est l'heure, je ne sais pas, moi, c'est le midi, c'est l'heure des vêpres, c'est l'heure des. Mais à 12h25, là, on n'était pas aussi précis. Mais ça amène une notion. Fait que là, elle a écrit comment est-ce que. Alors, ça amène l'enfant à travers sa lecture à se mettre à la place de quelqu'un. Puis comment est-ce qu'il aurait vécu ça de voir ce bûcher, Jeanne au bûcher, qui tout le long qu'elle brûlait, criait Jésus. Tu voyais que jusqu'à la fin, c'est une femme qui avait une grande foi. On l'a souvent vue comme une mystique, mais elle était très croyante et très... en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis justement, dans le livre de Jeanne, dans le cahier que j'ai préparé, il y a une belle section sur les... Jeanne avec la Bible, c'est comment est-ce qu'elle avait l'air de rien, puis la même chose avec David, je fais des liens avec David, qu'il semblait pas être, c'était petit, mais Dieu l'avait vu, les injustices qu'elle a vécues, l'évêché à Rouen qui était pour les Anglais, puis qui a fait un procès injuste, qu'est-ce que Jésus dit des sépulcres blanchis, les prêtres, les pharisiens hypocrites, ben, c'était la même chose, elle était avec des gens du clergé qui étaient hypocrites. Il y a beaucoup de liens à faire. Vous faites des lectures, il y a certains livres qui ont des belles valeurs au niveau chrétien, puis qu'on peut faire des liens avec certains passages de la Bible aussi. Fait que vous voyez que c'est très, très riche. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les livres à la maison. Vous les adaptez selon l'âge des enfants. Et puis, comme je vous disais, c'est pas obligé de tout faire. Vous pouvez cibler une activité ou une autre. Mais ça fait... Puis, peut-être la question qu'il y en a qui se demandent, comme moi, quand j'ai fait « 20 milieux sous les mers », j'ai passé 3 mois là-dessus, mais je faisais mon français, mon histoire, ma géographie, les sciences. Pendant 3 mois, on faisait juste ça, puis on était 2 ou 3 familles, la même chose. Mais on a appris tellement, c'était tellement riche, puis ça fait des lectures qui sont tellement enrichissantes aussi. Donc, à travers, il n'y a pas beaucoup de livres qui nous permettent un si long voyage. Le tour du monde en 80 jours, ça en serait un aussi. Jules Verne, je pense que... Il y avait le tour de nous amener avec lui pour découvrir tout plein de choses. Mais dans des temps plus courts, vous pouvez dire, moi, je peux peut-être juste faire la partie français, mais si vous avez un bon livre qui vous permet d'aller plus loin, faites-en un cours d'histoire, un cours de géographie, l'artisanat, on peut fabriquer des choses comme ils font dans le livre. Si c'est un livre, une histoire qui se passe dans l'Antiquité, allez voir des livres à la bibliothèque, sortez des livres sur la Rome antique, si c'est une histoire qui se passe à cette époque-là, allez voir comment on vivait, construisez des maquettes. Donc, vous voyez que juste à partir d'un livre, il y a tellement de choses pour découvrir, puis ça rend l'activité tellement intéressante aussi pour nos enfants. Puis c'est une belle richesse aussi, c'est des livres qui nous apportent beaucoup, c'est une belle richesse pour eux également que de pouvoir connaître ces histoires-là. Bien, je vous remercie beaucoup, je ne sais pas s'il y avait des questions ou des...
C'est votre table, comment
on fait pour l'identifier? Oh, ben, il y a une belle nappe bleue, puis mes cahiers sont dessus.
Il n'y a pas le titre, rien.
Ben, c'est marqué, il y a un petit papier voyage au fond des livres. C'est très modeste, moi, c'est juste pour rendre accessible les. Puis vous avez la petite, pour, comme je disais, pour 1 $, ça va payer mon frais de payage. Je sais pas. Sur le pont? 5 piastres, c'est ça?
14, aller-retour.
Aller-retour, y a-t-il un chemin différent?
C'est
une des quêtes,
passer sur le pont, mais il y a
5 $. OK, en tout cas, ça va m'aider à payer mes frais de péage. Mais si vous en voulez une, ils sont disponibles à la table, puis vous viendrez me voir. Je vous étudie le livre de Jeanne, oui, il n'était plus disponible, mais j'en ai fait des copies s'il y en a qui jamais étaient intéressés. Mais sentez-vous bien à l'aise, c'est des outils, mais il y a plein, c'est plein d'idées. Oui, ben moi, les cahiers que j'ai faits, c'est 9 à 15 ans. Okay. Mais j'ai des mamans, celles avec qui on les faisait à l'époque, ben, elle en avait dans ce niveau d'âge-là, mais elle en avait des plus jeunes, 6, 7 ans. Fait, elle ajustait comme le plus jeune faisait un petit livre, un petit cahier, c'était des dessins. Fait que les plus vieux peuvent faire ça, mais ça n'empêche pas les plus jeunes de suivre la lecture et faire des activités adaptées à leur niveau. Mais bon, ça, c'est des idées, c'est des livres fantastiques. Si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir. Celui-là est 25, celui de Jeanne d'Arc est 20. Peut-être que ça vous paraît beaucoup, mais il y a tellement d'heures de travail dans ça. Puis il y en a une partie qui va à mon garçon. Même hier, il était à la maison avec sa femme. Puis il dit, oublie pas, maman, là, j'ai encore des redevances sur ça. Ça fait 10 ans, à peu près 8 ans qu'ils ont fait. Mais c'est, si vous en achetez un, vous pouvez faire des photocopies pour tous les enfants de la même famille. Donc, c'est quand même, si jamais bien, vous avez une amie qui veut le faire, bien, je vous encourage à qu'elle l'achète elle-même. C'est local, je ne viendrai jamais riche avec ça, mais ça me faisait, j'étais tellement motivée, je me dis si ça peut encourager d'autres mamans. Mais je vous dis ça dans le sens où, bon, je l'ai fait, il faut dire que mon mari faisait toutes les mathématiques, fait que j'avais quand même beaucoup plus de temps. C'est quelque chose que j'aime, qui me passionne, puis j'avais le temps de pouvoir le faire. Mais vous êtes capable, vous aussi, de le faire selon vos intérêts, votre disponibilité, des choses plus petites, des plus petits livres, ça peut être juste un chapitre, mais vous êtes capable de le faire vous aussi à la maison, vous avez plein d'outils. Là. On commence tranquillement, puis au fur et à mesure, on se sent plus à l'aise. Au début, je commençais avec des cahiers déjà tout faits d'avance. Après ça, de plus en plus, je faisais mes propres exercices, mes propres activités. Puis, on se lance, puis vous allez voir, c'est une belle aventure. En tout cas, bravo, là, je ne sais pas, les mamans, les papas aussi.
Et je puis, que vous êtes enregistré. Oui. À ce moment-là, est-ce qu'on va pouvoir voir ces ressources-là via le site de la CUPEC?
Quelles ressources?
Je veux dire, la conférence.
Oui.
Est-ce que ça va être mis sur le site de la
PEC? J'imagine. Oui, c'est ça. Je ne suis pas très familière avec ça non plus, mais oui, ça devrait.
Parce que c'est ça, parce que moi, je trouve ça super intéressant, mais ma fille, elle a 5 ans.
Oui, bien sûr. Ben, je vais peut-être revenir dans 5 ans. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas donné mon atelier. Mais non, il y a pas. Ça devrait être encore disponible sur le site web, sûrement. D'accord. On se revoit dans 5 ans peut-être, ou un atelier sur l'histoire l'année prochaine. Donc, bonne fin de journée et merci d'être venu.